L'Hebdo Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette Hebdo Région des Pays de la Loire. Nous allons parler des impôts locaux dont les avis sont en train d'arriver chez les contribuables, taxes d'habitation ou taxes foncières. Nous ferons le point sur ce qui change cette année. Nous découvrirons aussi un projet innovant inauguré lundi en Vendée. Ce projet s'intitule Phare pour photovoltaïque, autoconsommation, recharge et réseau électrique. L'idée, c'est de produire de l'électricité grâce au photovoltaïque, mais surtout de stocker cette énergie dans des batteries usagées de véhicules électriques. Le projet de parc écotechnologique du Carnet entre Nantes et Saint-Nazaire crée des remous dans l'estuaire de la Loire. Depuis un mois, quelques dizaines d'opposants se sont installés sur place. Mais de quoi s'agit-il exactement? Roch Chéreau, le maire de Saint-Viaud, l'une des deux communes concernées, nous en dira plus. Et puis l'actualité de notre diocèse cette semaine, c'est la journée mondiale du migrant et du réfugié, la 106e édition sur le thème « Contraint de fuir comme Jésus ». Et enfin, en hommage au comédien Michael Lonsdale décédé cette semaine, nous rediffusons un extrait de l'entretien qu'il avait accordé à nos confrères de Fidélité Mayenne lors d'une de ses fréquentes visites à l'abbaye d'Entrammes. Voilà donc pour le sommaire de cette hebdo-région des Pays de la Loire. Il vous est présenté par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'hebdo-région, l'actu de la semaine.
Le mois de septembre, c'est le mois de la rentrée, mais c'est aussi le moment de payer ses impôts locaux. Taxes d'habitation pour les locataires, taxes foncières pour les propriétaires, des taxes qui sont perçues par les collectivités publiques locales, communes, intercommunalités, départements et régions pour financer les services publics. Et puis c'était aussi un système d'imposition qui a fait l'objet, il y a quelques temps, de profondes réformes, c'est-à-dire depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, Florian Perret.
Ah oui Thomas, le président l'avait promis dans sa campagne, un dégrèvement progressif à partir de 2018 de la taxe d'habitation pour les locataires les plus modestes, pour en arriver à la suppression totale de cette taxe pour tous les foyers fiscaux. Ainsi, l'année prochaine en Maine-et-Loire, puisqu'on va rester concentré sur le Maine-et-Loire, on pourra dire que 350 000 contribuables sur les 435 000 du département ne payeront plus la taxe d'habitation. Michel Derac est le directeur des finances publiques de Maine-et-Loire.
L'année prochaine, un couple qui gagne plus que 44 000 euros, lui, il va voir sa taxe d'habitation diminuer à partir de l'année prochaine seulement d'un tiers en 2021, de deux tiers en 2022 et de la totalité en 2023.
Cette taxe d'habitation n'existant plus, cela fait donc 236 millions d'euros en moins pour les collectivités en juin, mais qui sont tout de même compensées.
En revanche, les collectivités locales continuent à percevoir l'équivalent puisque l'État rembourse à l'euro près le montant qui a été dégrevé.
Et cette somme, désormais versée par l'État au département, proviendra des taxes perçues par l'État au titre de la TVA.
Et qu'en est-il maintenant de la taxe foncière, Florian ?
Alors cette taxe foncière est toujours ponctionnée directement par les collectivités locales sur les propriétaires en juin.
Cette taxe foncière, elle représente dans le département donc une somme importante puisque c'est 492 millions d'euros, dont 485 au bénéfice des collectivités locales, c'est-à-dire le département, les communes, les EPCI, etc., pour leurs dépenses de fonctionnement et d'investissement.
Mais là aussi, sur la répartition, il y a du changement depuis cette année en raison de la suppression de la taxe d'habitation.
L'année prochaine, la taxe foncière sera uniquement réservée aux communes et aux intercos. Et donc les départements ne l'auront plus. Les départements donc auront un pourcentage de TVA pour rattraper la taxe d'habitation qu'ils ont perdue.
Des impôts locaux qui servent à financer tous les services publics.
Construction d'une crèche, entretien d'une école, rémunération du personnel communal, réparation de rues, éclairage public, financement de bibliothèques municipales. Vous voyez, tout ça, c'est des choses très concrètes. C'est ça qui est important. Quant aux intercos, elles contribuent notamment, comme vous le savez, au tri, à la valorisation des déchets, au transport, à la création et l'entretien d'équipements intercommunaux. Donc tout ça, c'est financé aussi par les produits locaux. Quant aux départements, comme vous le savez, bon, ils ont des dépenses d'ordre social, protection de l'enfance, le RSA, l'autonomie des personnes âgées, les personnes handicapées. Ils ont aussi l'entretien des collèges, les routes départementales, la gestion de l'eau. Donc tout ça, c'est concret. Et donc on voit bien que les différentes taxes d'habitation, taxes où sont équivalents maintenant par l'État, taxes foncières, et puis donc les taxes économiques qui rapportent, elles, à peu près 260 millions d'euros, eh bien tout ça pèse sur le budget des collectivités pour des services publics précis rendus aux citoyens.
Un petit rappel, si vous êtes propriétaire, vous avez jusqu'au 15 octobre pour payer votre taxe foncière jusqu'au 20 sur Internet.
Florian Perret de RCF Anjou, merci beaucoup Florian pour ce point complet sur ces changements sur la taxe d'habitation et la taxe foncière. Dans le reste de l'actualité régionale, le ministère du Travail renforce depuis la semaine dernière ses contrôles de la fraude au chômage partiel et toujours en Maine-et-Loire. 763 contrôles ont déjà été menés par la direction régionale du travail depuis le mois de juin. La moitié de ces contrôles ne sont pas terminés, mais la directe a déjà transmis 66 dossiers à la justice pour des suspicions de fraude. Il y en a pour 800 000 euros. Alors c'est une goutte d'eau sur les 194 millions d'euros que les entreprises de Maine-et-Loire ont perçus de l'État au titre du chômage partiel. Mais cela demeure tout de même de l'argent public que ces entreprises ont détourné à leur profit. Dimanche, on vote en Sarthe pour élire 3 sénateurs, un scrutin indirect qui est loin de passionner les citoyens. 8 listes sont déclarées, parmi elles le sénateur sortant Louis-Jean de Nicolaï et Jean-Pierre Vogel, mais aussi la députée de La République En Marche, Pascale Fontenelle-Personne. 1560 grands électeurs vont donc s'exprimer. Ce sont des maires, des conseillers municipaux et parlementaires, ainsi que des conseillers départementaux. Et puis c'est la même chose pour les grands électeurs vendéens. La Vendée qui dispose de 3 sièges au Sénat, actuellement occupés par Bruno Retailleau, Les Républicains, Annick Billon, UDI, et Didier Mandelli, Les Républicains. Tous les 3 sont candidats à leur réélection. 5 autres listes ont été déposées, la majorité présidentielle, les communistes, les écologistes, une liste dite d'union de la gauche et enfin le Rassemblement national. Et enfin pour les régionales de mars, les élections régionales du mois de mars, ça commence déjà. Le député PS Guillaume Garot a annoncé hier être candidat. La clôture des candidatures pour la gauche est prévue pour le 29 septembre. Les militants voteront le 8 octobre.
L'Hebdo-Région, initiative.
Et on retrouve Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Un projet innovant a été inauguré lundi au CIDEV, le syndicat d'énergie de la Vendée. Ce projet s'intitule Phare pour photovoltaïque, autoconsommation, recharge et réseau électrique. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme? Vous allez tout nous expliquer, Fanny.
L'idée, c'est de produire de l'électricité grâce aux 200 mètres carrés de panneaux photovoltaïques posés sur le toit du bâtiment. Jusque-là, rien de bien nouveau. Mais plutôt que d'envoyer les électrons sur le réseau public, ils sont utilisés directement pour la consommation du bâtiment. Et le surplus est stocké dans des batteries de véhicules électriques de seconde vie pour un usage ultérieur. Et c'est bien là l'originalité du projet. Écoutez Alain Leboeuf, le président du CIDEV.
Les batteries des véhicules, où certains disent « mais qu'est-ce qu'on va en faire ?» Eh bien là, elles sont réutilisées parce qu'elles ont encore une durée de vie non négligeable, on estime à plus de 10 ans.
Justement, ces batteries, jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on en faisait?
Alors justement, c'est aussi le sujet aujourd'hui. On décrit beaucoup les batteries et jusqu'à présent, il n'y a pas de batteries usagées. Il faut reconnaître qu'il n'y avait pas énormément non plus de véhicules électriques. Mais très concrètement, ces batteries durent plus longtemps que ce que les constructeurs avaient eux-mêmes imaginé. Désormais, justement, puisqu'elles commencent à arriver sur le marché, cette expérience intéresse tout le monde pour voir qu'est-ce que l'on va pouvoir trouver comme cycle économique pour ces batteries de seconde vie.
Avec ce système, vous pouvez produire suffisamment d'électricité ou vous avez encore besoin des réseaux?
À aucun moment, il a été imaginé que l'on puisse se séparer du réseau. Ici, il faut simplement essayer d'alléger le réseau, réinjecter ces électrons qui ont pu être captés la veille, par exemple dans les pics de consommation du matin vers 7h30, 8h, où nous sommes tous en train de tirer sur le réseau. Et bien là, on va l'alléger un petit peu en réinjectant ces électrons stockés de la veille, par exemple.
Ce système d'autoconsommation a donc été inauguré lundi. Le CIDEV a-t-il du recul sur son fonctionnement?
Oui, déjà 3 mois de fonctionnement, car l'inauguration a été repoussée en raison de la crise sanitaire et les résultats sont encourageants.
On remarque bien que nous sommes en train d'atteindre les objectifs théoriques que nous nous étions fixés. On va encore pouvoir progresser, mais là on a une piste très très intéressante. Encore une fois, tant pour alléger le réseau public de distribution d'électricité que de recyclage, en quelque sorte, des batteries, des véhicules électriques qui vont se multiplier.
Et donc c'est un modèle qui demande à être copié?
C'était tout à fait le travail que nous avions lancé. Ce n'était pas simplement pour s'amuser, surtout pas. C'était pour vérifier la pertinence du modèle, pour qu'il puisse être reproduit. Notre idée maintenant, ça va être de pouvoir le développer sur l'ensemble du département et bien au-delà. C'est pour ça que nous avions des grands donneurs d'ordre nationaux pour pouvoir le développer au-delà de la Vendée.
Et en effet, d'autres projets similaires devraient voir prochainement le jour à Saint-Michel-en-Lerme et Talmont-Saint-Hilaire, en Vendée, sur une résidence pour personnes âgées et sur un bâtiment public.
Le projet phare a été développé avec Bouygues Énergie et Services et la firme Renault. On continue avec la Vendée où il fait bon vivre. C'est en effet le message que souhaitent faire passer les élus de la Roche-sur-Yon qui l'affiche dans le métro parisien. La campagne de communication a débuté mercredi et se poursuit jusqu'au 6 octobre. Elle mise cette année sur le besoin d'espace, une notion clé de l'après-confinement. En effet, avec la crise du Covid-19, de nombreux Parisiens ont décidé de quitter la capitale pour s'installer en province et l'agglomération a donc choisi de capitaliser sur le phénomène d'attractivité des villes moyennes en mettant en lumière trois de ses atouts, l'emploi, l'innovation et le développement économique ainsi que la qualité du cadre de vie et aussi le logement attractif et abordable. Et pour illustrer ces atouts, un visuel sous forme de portrait de Parisiens mis en scène a été choisi, accompagné d'une nouvelle signature. Votre nouvelle vie, c'est ici.
L'Hebdo Région, rencontre avec.
Le projet de parc écotechnologique du Carnet entre Nantes et Saint-Nazaire crée des remous dans l'estuaire de la Loire. Depuis un mois, quelques dizaines d'opposants se sont installés sur place, bloquant la route d'accès au site sur la rive sud de la Loire. Et ce n'est pas le premier conflit autour de cette zone naturelle où un projet de centrale nucléaire avait déjà échoué face à l'opposition de la population. Et cette fois, c'est donc un parc écotechnologique de 110 hectares que le grand port maritime de Nantes-Saint-Nazaire veut installer. De quoi s'agit-il exactement ? Roch Chéreau, le maire de Saint-Viaud, l'une des deux communes concernées, nous en dit plus au micro d'Anthony Torzek.
Alors c'est un éco-parc, donc derrière éco-parc on y met ce que l'on veut bien y mettre. Donc c'était un petit peu aussi nos avis réservés lors de l'enquête publique, puisque par derrière on a attiré l'attention des pouvoirs publics sur le fait qu'on n'était pas opposé à voir arriver donc des activités portuaires sur le sud de la Loire, donc sur nos territoires, à condition qu'il n'y ait pas de gêne visuelle, olfactive et sonore. L'arrêté nous a plutôt été dans le bon sens, hein, puisqu'il prévoit aujourd'hui d'accueillir des activités liées aux énergies nouvelles, donc ce qu'on appelle un éco-parc. Dans un premier temps, c'était tout ce qui était l'éolien. On nous avait dit que ça pourrait être du stockage pour les éoliennes en mer. Bon, finalement, c'est un projet qui n'a pas vu le jour. Aujourd'hui, il y a des pistes de candidature, mais le grand port est fort peu disert sur la question. Le seul intérêt que l'on a obtenu, c'est lors de la signature du contrat État-Région, fin août, où le directeur du grand port s'est engagé à mettre en place une commission de suivi de validation des candidatures des industries ou enfin, des entreprises qui seraient accueillies sur le site avec une possibilité de veto pour les communes. Donc, trouver que ça allait plutôt dans le bon sens.
Donc pour le moment, très peu d'informations sur ce qui va être vraiment installé dans ce parc.
Très peu d'informations. La communication du grand port est très très limitée en fait.
Vous le regrettez ?
Ah oui, on le regrette depuis le départ.
Il y a une ZAD qui s'est installée, comme à Notre-Dame-des-Landes, il y a maintenant quelques jours. Quel regard vous portez sur ces opposants qui se sont installés sur place ?
D'abord, un regard de citoyen. Ce sont des personnes qui vivent dans une république. Et une république, il y a des droits et de devoirs. Et ces personnes-là voilà, occupent aujourd'hui des espaces privés en toute illégalité. Donc, ce n'est pas normal. N'importe quel citoyen aujourd'hui qui le ferait se retrouverait devant les tribunaux ou serait expulsé. Et c'est vrai qu'on a, nous, sur Saint-Viaud, beaucoup de mal à comprendre pourquoi on laisse ces individus, qui, somme toute, aujourd'hui ne sont pas très virulents, mais les riverains ont beaucoup de mal à comprendre ça. C'est des nuisances la nuit, et là, ce n'est pas des nuisances sonores uniquement un week-end, c'est dans la semaine où il y a de la musique. Voilà, des gens qui sont venus, qui ont choisi délibérément d'investir à la campagne, dans des zones très reculées, pour être tranquilles, et aujourd'hui, ils se retrouvent pris en étau et ils n'ont rien demandé à personne.
Sur les revendications, sur les préoccupations de ces opposants à ce projet. Quel est votre regard sur ces arguments ?
Moi, je trouve qu'il y a eu 20 ans de concertation. En 2017, il y a eu une enquête publique. Chacun pouvait s'exprimer. C'était le moment, justement, pour faire évoluer le projet. L'affaire est bouclée. Il y a un moment, il faut y aller. Et puis, aujourd'hui, apparaît ce collectif qui, au départ, avait peut-être aussi des idées politiques par derrière, puisque quand même, certains leaders sont bien identifiés sur certains mouvements politiques visibles de la rue. Il y a des élections départementales et régionales l'année prochaine, donc Oui, le sujet est sensible. Maintenant, il ne faut pas prendre non plus, je pense, ce site en otage comme les riverains. Ils méritent mieux que ça.
Quel est l'intérêt, selon vous, pour votre commune, la création d'un parc comme celui-ci?
Déjà, c'est l'entretien de ce site qui a été délaissé. Hein. Donc, il y a cet aspect environnemental qui est important parce qu'il faut qu'on traite ce site. Et puis, on a aussi un enjeu de mobilité. La rive sud a toujours été un petit peu la grande oubliée du département. Là, on avait une opportunité de mettre un appontement avec des perspectives de développement alternatif à la voiture et polluant, en optimisant au mieux le fleuve. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on passe à côté de cette opportunité-là.
Roch Chéreau, le maire de Saint-Viaud, espère aussi l'expulsion de la ZAD du Carnet avant la fin de l'année 2020. Dans le reste de l'actualité économique de la région, bonne nouvelle du côté de l'apprentissage en Mayenne. 1198 contrats d'apprentissage ont été signés via la Chambre des métiers de Laval, et c'est plus qu'en 2019. Pour rester dans le domaine économique, le leader mondial des produits laitiers, Lactalis, étend encore son empire aux États-Unis et se hisse au 9e rang des groupes laitiers présents outre-Atlantique, selon le président du groupe mayennais, Emmanuel Beignet. L'achat d'une grosse partie de l'américain Kraft Heinz pour ce qui concerne les fromages dits naturels de type cheddar et mozzarella, doit encore être validé par les autorités de la concurrence américaine. Les fermiers de Loué viennent de signer un contrat très juteux avec McDonald's France. La coopérative sartoise va fournir 35 millions d'œufs Label Rouge par an au fast-food. C'est 9 fois plus que ce qui est fourni actuellement. Cela s'explique par une évolution des menus du géant du burger qui va proposer tout au long de la journée ses petits déjeuners à base d'omelettes. Et enfin, c'est la crise en revanche pour les centres de vacances des Pays de la Loire. Plusieurs responsables des 70 centres de vacances de la région se sont réunis en Maine-et-Loire hier à Liré. Certains d'entre eux ont perdu près de 80% de leur chiffre d'affaires depuis l'apparition de la Covid-19. Plus de 170 emplois dépendent de cette activité dans la région.
L'hebdo-région, la pause spirituelle.
L'actualité de nos diocèses cette semaine, c'est la journée mondiale du migrant et du réfugié. Aubéry Métro, bonjour.
Bonjour Thomas.
Pour cette 106e édition, le thème est « Contraint de fuir comme Jésus ».
Et oui, car les parents de Jésus, eux aussi, ont été obligés de fuir le roi Hérode. Cette année, l'accent est mis particulièrement sur ceux qui sont obligés de se déplacer, mais pas forcément de franchir les frontières de leur pays. Annie Bigot est la responsable de la pastorale des migrants du diocèse du Mans.
Cette année, le thème souhaité par le pape, c'est « Contraint de fuir comme Jésus-Christ ». Et son message se concentre surtout sur la pastorale des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays, qui sont contraintes de fuir une région pour aller dans une autre du fait du mélange des nationalités, par exemple, ou des choses comme ça. Le pape nous propose cette journée pour nous rappeler à la fois ses convictions et ses engagements sur les personnes migrantes, mais aussi sur leurs droits et à la dignité.
Comme chaque année, le pape François a écrit une lettre à l'occasion de cette journée.
Oui, depuis Pie XII qui a créé cette journée, le souverain pontife prend la plume pour mettre l'accent sur des actions précises qui doivent être selon lui menées par les catholiques. Cette année, il a décidé d'associer plusieurs verbes comme connaître pour comprendre, écouter pour réconcilier ou encore collaborer pour construire. Annie Bigot.
Et je trouve que ces duos de verbes sont très intéressants. Nous font comprendre concrètement ce qu'on peut faire aussi, chacun à notre niveau. Connaître pour comprendre, effectivement. Les migrants font peur, on le sait bien, et voilà. Mais si on apprend à connaître le migrant qu'on voit tous les jours dans la rue ou notre voisin qui est migrant ou celui qui est d'une autre couleur que la nôtre.
Ou d'une autre religion.
On s'aperçoit que finalement, c'est un être humain qui peut être très sympathique, qui peut être très courageux et qui peut être un ami.
D'ailleurs, ce pas vers l'autre, Annie Bigot, la responsable de la pastorale des migrants, l'a fait lorsqu'elle a été nommée il y a une dizaine d'années.
On a plein de choses à apprendre des migrants. Vous savez, moi, ça fait de nombreuses années que je suis responsable de la pastorale des migrants et je remercierai jamais assez le Seigneur de m'avoir permis de vivre au sein de ce service. Qu'est-ce que j'ai rencontré comme belle personne? Qu'est-ce que j'ai pu apprendre sur ma foi? Mais aussi sur ma vie personnelle, sur mon regard, les migrants sont des hommes et des femmes comme les autres, qui ont une autre culture, qui ont une autre façon de vivre leur foi, mais peut-être qu'il faudrait qu'on apprenne d'elles et qu'on accepte d'apprendre d'elles plutôt.
Pour le diocèse du Mans, une messe aura lieu dimanche matin en église Saint-Liboire, mais contrairement aux autres années, il n'y aura pas de repas partagé et pas d'après-midi festive en raison des contraintes sanitaires.
Au Berry Métro de RCF Sarthe, merci beaucoup. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.
L'hebdo-région, si on sortait.
Décédé le 21 septembre dernier, l'acteur Michael Lonsdale, césarisé pour son rôle dans le film « Des hommes et des dieux », était profondément croyant. Il était un habitué de l'abbaye du Port du Salut à Entrammes, en Mayenne. Nos amis de Radio Fidélité Mayenne avaient eu le privilège de l'accueillir dans leur studio, où nous retrouvons Isabelle Rupin de Fidélité Mayenne. Bonjour Isabelle.
Bonjour Thomas. Oui, ça a vraiment été, le mot est juste, un grand privilège. Et il est même, cerise sur le gâteau, venu fêter avec nous nos 20 ans et nos 25 ans. En 2011, il avait témoigné devant une salle comble de sa foi. Et en 2016, il s'était produit pour un concert lecture des brebis au milieu des loups. Je vous propose d'écouter des extraits d'une interview réalisée par Véronique Lara à l'époque. Il s'exprime tout d'abord sur la façon de témoigner de sa foi dans le monde du show business.
C'est pas difficile, mais je pense toujours à Sœur Emmanuelle, qui était professeure dans un lycée en Turquie, et sa supérieure lui a dit, parce que vous avez des élèves juifs, des élèves musulmans, donc ne parlez jamais de Jésus, mais que votre personne resplendisse l'amour du Christ, voilà. Oui, parce que le responsable de l'Emmanuel, là, il y en a eu un, c'était un Allemand un petit peu excité, qui m'a un jour demandé à me voir, il me dit, mais alors comment est-ce qu'on va évangéliser le milieu cinéma? J'ai dit, c'est pas en allant dans les bureaux des directeurs ou des producteurs avec une pancarte, Jésus vous aime. Non, il faut que ce soit fait autrement. Je crois que maintenant, les gens sont plus ouverts à ce qui est spirituel. Avant, c'était très fermé, moi je me faisais rembarrer souvent. Maintenant, non. Ils sont plus respectueux, ils posent des questions. Il n'y a plus cette espèce d'hostilité qu'il y avait. Sauf quelques personnes profondément anti-religieux. Bon, à cela, on sait, il faut être très prudent parce qu'ils sont assez féroces.
De l'avis de tous, Michael Lonsdale avait beaucoup de considération pour ses congénères en règle générale.
On se moque des gens, on les critique, on les déconsidère. Il faut toujours essayer de penser qu'en parlant des autres, que c'est un enfant de Dieu et qui a des travers, des torts et même des monstruosités en lui, mais c'est quand même une création voulue par Dieu. On peut y arriver. Chaque fois qu'il y a quelque chose de difficile, il faut faire appel à l'Esprit Saint qui est fait pour ça. Jésus, il n'a pas dit « je vous laisse l'Esprit », il a dit « je vous laisse mon Esprit ». Si on prie l'Esprit, ben on prie le Christ, et puis Dieu aussi. C'est parce que ça m'avait toujours impressionné, la grande phrase de Dostoïevski, « la beauté sauve le monde ». Mais je pense qu'il y a quelque chose de plus grand encore que la beauté. La beauté, c'est un attribut de Dieu. Donc c'est très grand et très important. Mais l'amour, c'est Dieu totalement. Alors voilà.
Et puis Isabelle, vous avez naturellement souhaité recueillir la réaction de l'ancien prieur de l'abbaye d'Entrammes, où Michael Lonsdale venait très régulièrement avec sa paroisse parisienne Saint-Séverin.
Des liens forts s'étaient noués en effet entre Michael Lonsdale et Don Joseph Deschamps, qui a été très marqué par sa foi et sa simplicité.
Il était un homme de foi et un homme de prière, je pense. Il n'y avait pas d'un côté l'acteur et ensuite l'homme de foi. Il était tout entier un homme de foi, un homme de Dieu, rempli de Dieu. Ça se lisait, ça s'exprimait, d'abord par sa bonté. Il pouvait être aussi bien à l'aise avec des chrétiens qu'avec des non-chrétiens. Mais je pense que c'est leur but le plus, c'est l'hypocrisie, je pense. Il était certainement très attentif. Moi, j'ai senti dans mes contacts que j'ai avec lui, très attentif aux gens avec qui il vivait, avec modestie, hein. Très, très fraternel. C'est un homme tout simple. Quand on lui parlait, il écoutait. Et Michael devait sans doute être un homme plein d'amour et de miséricorde. Michael pouvait approcher ses collègues dans leur simplicité. Il pouvait toucher par l'écoute. Et j'imagine qu'il a tapé sur l'épaule de plus d'un de ses collègues, etc., en disant les confiances. Confiance, allez.
Merci beaucoup Isabelle et puis aussi merci à Michael Lonsdale pour ce témoignage de foi. Et je pointerai aussi l'humour dont il ne se départissait guère et qui transfigure dans le choix de certains de ses quelques 140 films qu'il a tournés. Allez, on clôt cette partie culturelle de l'Hebdo Région avec cette dernière information. L'Orchestre National des Pays de la Loire va changer de directeur. Guillaume Lamas remplacera le 1er décembre Michel Hérol en poste depuis 26 ans. Et Guillaume Lamas a occupé notamment le poste de délégué général de formation musicale à l'Opéra de Lyon. Et c'est la fin de cette hebdo-région des Pays de la Loire. Il vous était présenté par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire. Je vous souhaite à tous une excellente semaine.